Bonsoir à tous, Morgane Guerrier en votre compagnie. Il est 18h05, temps universel, l'heure d'à votre avis, l'émission qui donne la parole aux auditeurs. Ce soir, nous parlons de la gestion des inondations. Au moins 15 personnes sont mortes à Abidjan suite à des pluies torrentielles la nuit dernière. De telles catastrophes se produisent souvent dans les pays africains durant la saison des pluies. Comment expliquer la récurrence des inondations? Les infrastructures sont-elles adaptées? Les alertes météo sont-elles lancées à temps? On attend vos commentaires. Pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VOA Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. Et pour les autres, vous pouvez participer en direct au 001 202 205 26 33. Premier auditeur ce soir, c'est Brahima Doumbia. Bonsoir Brahima.
Bonsoir à tous.
Alors, Brahima, d'après vous, hein, comment est-ce qu'on pourrait expliquer la récurrence des inondations?
Pratiquement chaque année, quand il y a inondation, il y a des morts quand même ici en Afrique, ça, il faut le dire. Que ce soit au Mali, tout récemment, l'année passée, à Bangoni, un quartier de Bamako, il y a eu des dégâts quand même de matériel et estimé à plusieurs millions quand même. Cela aussi a causé la mort et le déplacement aussi de plusieurs populations qui étaient obligées de loger dans des écoles. Et le cas de la Côte d'Ivoire tout récemment, aujourd'hui ou hier, cela est encore palpable et cela m'attriste beaucoup. Je pense que le gouvernement, les ministres concernés quand même, de l'urbanisation et autres quand même, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un frein à cela ou essayer quand même de voir des autorisations de construire, puisque tout le monde se permet de construire là où on veut et quand on veut casser aussi pour pouvoir et permettre l'eau d'évacuer. Certains se plaignent. Je pense qu'il faut une solution. Sinon, des dizaines de mois ou même une perte en vie humaine, cela est trop. Dans ce cas, je pense quand même, puisqu'il y a des moyens, il y a aussi des techniciens, des agents quand même compétents ou payés pour cela, pour qu'il n'y ait pas ce genre de dégâts en quelque sorte.
Donc vous pensez qu'il faudrait notamment relocaliser ces populations?
Effectivement, mais cela quand même va beaucoup perdre. Ou bien c'est là des débats en quelque sorte, puisque les gens vont vouloir manifester ou autre. Mais la seule solution quand même, c'est d'essayer de, comme vous l'avez bien dit, relocaliser ces gens-là. Mais aussi, il faut mettre l'accent sur le suivi, puisqu'il y a des parcelles qui sont parfois données à ces gens-là, mais qui en réalité, ces gens-là ne bénéficient pas de ces parcelles et qui sont à la longue vendues à autres personnes. Je pense que si on essaie quand même de réorganiser ces gens-là et de construire des logements décents et aussi ces endroits où l'eau doit être évacuée et de faire des caniveaux de telle sorte que l'eau puisse être évacuée et aller là où l'eau doit être allée, je pense qu'on pourra éviter, même si ce n'est pas à 100%, mais éviter quand même des morts, même si des dégâts matériels peuvent être constatés.
Merci beaucoup, Brahima Doumbia. Alors, sur la récurrence, hein, je vais vous donner quelques chiffres. À Abidjan, l'an dernier, les pluies avaient fait 15 morts. En juin 2015, 16 personnes étaient également mortes. Le 19 juin 2014, 23 personnes avaient péri dans des glissements de terrain. Et le plus lourd bilan remonte au 29 mai 1996, où des pluies diluviennes avaient fait 28 morts à Abidjan. On a au bout du fil Diarra Kanyoumé, qui est au Mali. Bonsoir.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique et nos millions d'auditeurs.
Alors Diarra, vous voyez bien hein, que ce problème revient très souvent à la période des pluies, à chaque fois il y a des inondations. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on fasse face au problème, à chaque fois au même problème?
Ok, merci de me donner la parole. Morgane, à mon avis, je pense que pour trouver solution à cette flou, il faut que non, l'État prend et leur responsabilité. Il faut imaginer à chaque année, l'an passé, je ne sais pas, c'était en Sierra Leone ou bien dans quel pays, il y avait plusieurs morts là-bas, jusqu'à les dirigeants africains même et s'est fait donc pour aider cet pays. Donc à mon avis, si je pense que vraiment à chaque année, cette flou répète, il faut que non, le gouvernement vraiment il ne prend pas les responsabilités. Parce qu'on ne donne pas certains terrains à certaines personnes là où on construit. Parce qu'on ne construit pas partout. Il faut que non, avant que tu construises dans certaines zones, il faut vraiment miniser l'argent d'abord, parce que tout le monde n'est pas moyen pour remplir des bas-fonds pour que non, la maison n'a qu'à bien être posée. Sinon, à mon avis, je pense que vraiment, en Côte d'Ivoire, il y a certains quartiers même qui, pour moi, c'est, et leur place vraiment n'est pas bonne, parce que il y a des quartiers même, c'est les quartiers des pauvres, donc ils ont dans le bas-fond. Vraiment, tout le monde n'a pas moyen pour construire les maisons en dire. Il y a certaines maisons même, c'est au moins une maison en bois. Donc, à mon avis, si, je pense que cette fléau est en train de répéter, je pense que vraiment le gouvernement ne prend pas les responsabilités. Parce qu'il y a des certaines places même, ce n'est pas bien construit. Et puis, l'eau aussi ne se dépasse à place. Parce que il faut que non, les agents de construction prennent leurs responsabilités pour donner la bonne place à des populations pour qu'ils n'aient qu'à éviter cette catastrophe.
Alors vous, vous mentionnez essentiellement l'emplacement des quartiers résidentiels, mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'infrastructure? On sait qu'il faut quand même, pour gérer les eaux, il faut des bons égouts, il faut des assainissements. Est-ce que vous avez l'impression que ces efforts sont faits, que les infrastructures sont adéquates?
Bon, ouais, effectivement, on doit faire les infrastructures, mais parce qu'il faut que non, le gouvernement aussi regarde sur la route de l'eau, là où l'eau circule beaucoup, donc on doit trouver solution à ça. Sinon, même en Côte d'Ivoire, je pense que vraiment les jeunes des quartiers Bardo d'ici m'écoutent, j'ai fait au moins 7 ans à San Pedro. Donc pendant la saison, c'est que les jeunes des quartiers Bardo d'ici, on se rassemble pour déboucher les carnivaux, parce que quand les carnivaux sont bougés, donc je pense que vraiment souvent même quand il pleut, l'eau fait au moins 3 jours dans certaines maisons, la population même, il y a certaines quartiers même, ils ne peuvent pas rentrer dans leurs maisons, même il y a des maisons qui étaient construites dans Bafon, c'est le immeuble d'aujourd'hui même, il y a des gens, ils ne peuvent pas dormir de ça, parce que c'est en train de fondre ici. Donc à mon avis, je pense que vraiment c'est un problème de sécurité par rapport, et la sécurité n'est pas en garantie. Sinon, l'État même doit vraiment trouver solution pour que non, on n'a qu'à éviter cette catastrophe à chaque année. Sinon, à mon avis, je pense que vraiment la vie des populations en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs personnes, elles sont en danger, à mon avis, Morgane.
Merci beaucoup, Diarra Kanyoumé. On va maintenant laisser la parole à Tidiane Botekeba, qui est à Douala, au Cameroun. Bonsoir, Tidiane.
Oui, bonsoir Madame Morgan, bonsoir à toutes les questions de la VOA et surtout toutes mes félicitations au lion de la Teranga.
Félicitations, effectivement. Oui. Nous aussi, on a regardé le match depuis la Voix de l'Amérique et on a bien célébré la victoire. Alors, Tidiane,
Moi, je fais le constat parce que voilà, je suis quand même dépendant de la page Facebook de la VOA.
Ah oui, oui, c'est vrai que la page Facebook est pleine d'articles sur la Coupe du Monde. Tidiane, vous êtes au Cameroun. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes d'inondation?
Oui, il faut quand même dire que les inondations, c'est un problème africain, hein, même si quand même ici... quand même les dégâts quand même c'est un peu je vais dire abordable, mais chaque année en tout cas les inondations causent plusieurs dégâts matériels, même si humanitaire non, grâce je vais dire à l'exploit du travail exceptionnel que font la société Isakam ici, il faut quand même saluer ces gars. Elles font vraiment un travail exceptionnel. Mais malgré tout, la population refuse quand même de prendre conscience parce que ces inondations, à mon avis, au nom pris de la conscience de la population. Parce que les bouteilles en plastique que nous consommons ici, on les jette un peu partout. Donc dès que la pluie tombe, donc toutes ces bouteilles se donnent rendez-vous dans les caniveaux. Donc ça empêche, ça bouche les caniveaux, ça empêche les caniveaux de vraiment de couler normalement. C'est ça ce qui cause ces inondations. Et de notre part, il y a des gens qui aiment le moins cher, qui habitent dans les conduits, comme on les appelle ici, dans les rivières, au bord de la rivière. Parce qu'il y a des personnes ici qui n'aiment pas vraiment payer assez. Donc il habite là, même malgré que la commune les déloge souvent, mais en tout cas ils sont là, ils sont là, ils sont là, et dès qu'il pleut abondamment, donc il y a quand même plusieurs dégâts matériels.
Mmh. Et est-ce que quand ces inondations arrivent, est-ce que les services de météo préviennent la population suffisamment tôt pour qu'elle puisse par exemple évacuer?
En tout cas, personnellement, moi, dans mon téléphone, donc chaque jour, en tout cas, je me préviens, par exemple, demain, voilà, et il me dit que voilà, demain, il faut rester à sec, il y aura de la pluie, ou bien, voilà, demain, il y aura du soleil. Donc, en tout cas, personnellement, moi, je suis informé. Mm-hmm. Donc, je ne pense pas si tout le monde est comme moi, mais en tout cas, moi, chaque jour, quand même, voilà, je suis quand même informé.
Et quand il y a des inondations comme ça, comment est-ce que vous jugez les opérations de secours?
Oui, des fois, ils viennent, voilà, docteur après la mort, il faut le dire, parce que même cette année, l'année dernière, j'ai vu plusieurs victimes ici. Donc, il n'y avait plus beaucoup, il y avait quand même les inondations un peu partout. Donc, il y avait même un camion, comment on les appelle ici, c'est le minibus qui avait vraiment fossé et tombé dans la rivière. Donc, il y avait eu beaucoup de morts. Donc, en tout cas, les secours ont venu tardivement. Voilà, il faut le dire, à chaque fois, ils viennent quand même docteur après la mort. Ça, c'est la vérité.
Merci beaucoup, Tidiane. Tidiane qui est à Douala, au Cameroun. Je vais vous donner un petit fait quand même avant de poursuivre. D'après l'ONU, hein, il n'y a pas que, comme on disait, hein, il y a beaucoup de pays qui sont affectés, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Justement, d'après l'ONU, le Niger risque d'être confronté en 2018 à de nouvelles inondations qui pourraient affecter plus de 170 000 personnes. Rappelons qu'en 2017, 56 personnes, dont une vingtaine à Niamey, ont péri dans des inondations qui ont affecté plus de 206 000 personnes. Conséquence, cette année, les autorités ont annoncé l'achèvement de la construction de plusieurs digues afin de mettre des milliers de résidents de la capitale à l'abri d'inondations mortelles provoquées par les crues du fleuve Niger. Voilà donc un exemple d'infrastructures qui ont été mises en place pour éviter les tragédies. Allez, on laisse la parole maintenant à Hassan Omar Boulalé-Gache. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. Vous, comment allez-vous?
Et ça va bien, merci. Alors, Hassan, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que les inondations se répètent comme ça chaque année aux mêmes endroits?
Les problèmes, c'est les problèmes de prévention. Les gens, les autorités ne préviennent pas souvent et n'ont pas de solution à ça. Et il y a des détournements de fonds aussi. Il y a des détournements de fonds qui sont assez importantes. Et déjà, on n'est pas habitué à trouver des solutions aux problèmes qui sont existants déjà. Donc, prévenir des catastrophes naturelles qui vont venir en Afrique, c'est quelque chose de miraculeux. C'est comme un mirage. Donc, c'est un mirage comme. Donc, c'est un problème qui se pose. Mais ça dépend de l'État. Il n'y a pas une volonté politique concrète de trouver. Mais ça devient de plus en plus quelque chose d'alarmant, une question d'actualité, parce qu'avec les changements climatiques, nous aurons toujours ce problème qui sera en récurrent dans l'avenir en Afrique.
Vous êtes à Djibouti, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Alors dites-nous, comment sont les infrastructures à Djibouti pour la gestion des eaux? Est-ce que les caniveaux, les structures d'assainissement, comment sont-elles?
Ben, il existe des débarrages, il existe aussi d'autres moyens qui sont mis à la disposition de la population, mais c'est pas suffisant. Et souvent la prévention et la mise en place d'une organisation, par exemple, qui gère la catastrophe naturelle avant et après, et ça n'existait pas. Même si ça existe, elle n'est pas effective, elle n'est pas en action. Donc c'est le problème qui existe souvent. Nous avons des problèmes problèmes déjà dans la vie quotidienne et qui ne sont pas résolus. Alors, prévenir et trouver des solutions, des catastrophes naturelles qui vont venir. Et souvent, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des superstitions, des croyances traditionnelles qui disent que tout vient de Dieu, donc on ne peut pas prévenir. Il y a des croyances qui limitent donc la préparation des catastrophes naturelles. Donc, on divise tout ça et ce n'est pas possible. Au moins, il n'y a pas des organes ou même des organes non gouvernementaux qui sont mis en place pour protéger et subvenir aux besoins en cas où il y a des catastrophes naturelles. Par exemple, il y a des catastrophes, il y a des risques naturels, mais aussi il y a des risques artificiels, c'est-à-dire créés par l'homme. Par exemple, un incendie criminel, une incendie criminelle, par exemple, ou autre chose. Donc, les gens ne sont pas préparés et non plus l'État ou la fonction de l'éducation, l'État ou le bébé qui n'est pas aussi trouve une solution à ça et n'est pas aussi préparé que la population ou le citoyen ordinaire.
Est-ce que vous avez l'impression aussi que les quartiers sont... il y a des quartiers qui sont plus souvent affectés par les inondations et que là, on ne demande pas à la population de changer de quartier ou alors la population qui ne veut pas bouger. Est-ce que ça aussi, c'est un problème que vous observez chez vous?
Oui, ça existe. On appelle ça des zones à risque. Oui, ça existe des zones à risque, mais il fallait que l'État déjà mette en place un plan d'aménagement du territoire et trouve des solutions déjà au préalable avant de que les gens s'installent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le mal de logement, mais aussi avec la population, l'exode rural, les gens qui se déplacent vers les villes et la population qui essaie de monter en Afrique, comme nous savons. Donc tout ça montre qu'il n'y a pas trop d'habitats ou des parcelles de terrain à habiter. Donc la personne qui est pauvre et qui est dans, même au-dessus du seuil de pauvreté, s'il trouve un terrain vite, et, oui, il s'en fout lui, les catastrophes naturelles qui vont venir dans 5 ans ou 20 ans, qui sont imprévisibles, aléatoires, donc il s'installe avec ses 10 enfants, 12 enfants, déjà ils n'ont pas où aller, et même l'individualisme gagne de plus en plus la société, il n'y a plus de collectivité, il faut le dire, avec les chômages qui augmentent, donc oui, tout ça, c'est la volonté politique, c'est l'État qui devait trouver des solutions à dire, par exemple, mettre en place une carte qui prévoit qu'ici n'est pas habité, c'est un risque d'inondation ou autre, d'écoulement de boue, par exemple, un terrain de glissement, voilà. Donc, il fallait interdire des zones de danger, mais l'État ne fait pas souvent, mais c'est pas seulement ici, mais c'est pour toute l'Afrique, Mais il faut c'est sûr et certain qu'on aura besoin des ingénieurs, on aura besoin des gens qui travaillent dans ce domaine-là, la gestion des risques et des catastrophes naturelles à l'avenir en Afrique. C'est sûr, avec les changements climatiques, et l'Afrique perdra plus dans les catastrophes naturelles par rapport aux guerres et à la famine.
Une analyse très complète. Merci beaucoup, Hassan, et à très bientôt. On va maintenant se tourner vers Diallo Thierno, qui est à Conakry. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Morgane, et bonsoir à l'ensemble des auditeurs et auditrices de VOA Afrique. Je présente mes sincères condoléances à l'ensemble du peuple ivoirien et aux familles endeuillées.
Alors, est-ce que chez vous aussi, les inondations sont récurrentes?
Bon, pas tellement. Je vais prendre l'exemple de l'année dernière parce que des porteurs d'une quartier de la capitale, d'Arsalan, il y a eu une inondation là-bas qui a fait plusieurs victimes. Mais c'est dû aussi au manque de vigilance des citoyens. C'est quelque chose qui est très grave parce que les responsables locaux sont vraiment compris à tous les niveaux. C'est ce qui a permis que les gens là sont venus s'installer là depuis plusieurs années. Voilà, soudainement, l'année dernière, il y a une inondation qui a fait plusieurs morts. C'est quelque chose que tout le monde a regretté parce que depuis lors, les autorités aussi, certes, à déguerpir ces gens-là, mais c'est pratiquement impossible parce que même pas deux mois de cela, à mois de mai, le responsable de l'aménagement du territoire voulait veiller les déguerpir, mais ils ont résisté, ils ont venu barricader la route, ils ont mis des mesures d'accompagnement et tout cela. Maintenant, ils sont là-bas encore, c'est un risque. C'est un gros risque que tout le monde doit éviter. J'aimerais aussi que tous les États africains prennent les choses au sérieux. Les inondations à répétition, c'est quelque chose que les différents dirigeants devront prendre au sérieux pour mettre fin à ça. Parce que moi, personnellement, j'en ai marre de voir chaque année des inondations partout presque, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Guinée, etc. Presque partout dans les différents pays africains, il y a des inondations. Si ce n'est pas des caniveaux qui ont poussé, c'est des inondations des ordures ou bien c'est des ponts et autres qui font des victimes. C'est quelque chose que les autorités doivent prendre des mesures sérieuses parce que ce n'est pas des faits naturels, à mon avis. C'est quelque chose qui est provoqué par les occupants en complicité avec les responsables locaux parce que c'est eux qui devraient en première ligne protéger les citoyens à la base, mais c'est eux qui viennent négocier, les donner les terrains en catimini, là, des zones qu'on ne devrait pas habiter, on les donne là-bas pour habiter. Maintenant, on reste là-bas 10 ans, 15 ans, 20 ans, où l'inondation vient, qui perd toute sa famille, c'est quelque chose vraiment regrettable et désolant. Mais ce n'est pas aux citoyens de protéger leur vie, c'est à l'État. On sensibilise les citoyens et on pousse l'État à prendre des mesures sérieuses pour sécuriser les citoyens. C'est ce qu'il faut. Il faut que tout le monde dénonce cela parce que ce n'est pas du tout possible que les faits comme ça là, continuent à hanter les gens.
Oui, voilà, c'était donc Thialo Odierno qui est à Conakry. Allez, on va rapidement partir en Côte d'Ivoire. Et Yao Marcelin qui est justement à Abidjan. Bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à l'éditeur de la VOA Afrique.
Alors déjà, hein, comment allez-vous? Pas trop de dégâts chez vous?
Non, pas du tout. Je suis en sécurité. Voilà, on va essayer de le souvenir. Mais néanmoins, je tiens à vraiment présenter mes condoléances aux familles de décédés. Il y a, il y en a 17 maintenant, 17 personnes qui ont perdu la vie au cours de ces inondations. Et vraiment, je prends mes condoléances le plus sincère aux familles de ces victimes-là.
C'est
un problème récurrent.
Oui.
Le problème d'inondation, à chaque saison, ce sont les mêmes dégâts et puis ce sont les mêmes communes. On a pratiquement les mêmes habitations. C'est ce qui est marrant. Ça veut dire que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Le problème persiste. Et les autorités ne prennent pas les choses au sérieux.
Mais d'après vous, qu'est-ce qu'elles devraient faire, les autorités?
Il n'y a pas de mesures prises.
Qu'est-ce qu'elles devraient faire, les autorités, d'après vous?
Justement, il y a des quartiers, à Abidjan, il y a des quartiers comme Moussikoro, à Tukoumila. C'est un quartier, normalement, vraiment, ça ne fait pas honneur à la capitale économique. Parce que quand vous côtoyez ce quartier-là, vraiment, les gens côtoient la mort. Mais j'ai l'impression que les résidents ne suivent pas vraiment les conséquences même de la vie d'habitation. Et que ce sont des zones à risque. Quand vous passez à Moussikoro,
Yao Marcelin, on va rapidement passer la parole à Steve Boko qui lui aussi en Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame la journaliste.
Allez, vous avez 30 secondes. D'après vous, comment ça se fait que ces inondations reviennent comme ça encore et encore?
Ah oui, bon, pour moi, je pense que la faute est saignée en deux parties. La première partie est pour les autorités et l'autre partie pour les ingénieurs. Parce que si les ingénieurs ont vu le coin que ça ne peut être habitable, il doit falloir qu'ils disent aux populations qu'ici il ne peut être habitable. Donc pour cela, l'État doit les dédommager selon moi. on doit les dédommager, les conseiller. Suite à cela, comme le temps est un peu pressé, je dirais tout simplement au gouvernement de prendre un décret disant, interdisant l'habitation dans les zones marécageuses, où toute personne qui y habitera sera sanctionnée.
Merci Steve. Malheureusement, c'est la fin. À votre avis, c'est toujours trop court. Morgane Guiriec à la présentation, Michel Joseph à la production. Merci d'avoir participé, merci d'avoir écouté. À bientôt.